Lorsque vous n'êtes pas protégé par votre équipe, est-ce que ça vous met dans une situation inconfortable? Est-ce que ça vous stresse? Est-ce que ça stresse la famille? On pose cette question à Antoine Roussel des Canucks de Vancouver qui est avec nous. Salut Antoine!
Bonjour!
Antoine, écoute, dis-moi, tu n'es pas sur la liste de protection des Canucks de Vancouver. Es-tu capable de dormir quand même? Est-ce que ça t'énerve?
Non, ça ne m'énerve pas, je dors très bien. Écoute, c'est des choses qu'on ne contrôle plus. Je contrôle ce que je fais sur la glace, je contrôle mon entraînement, je contrôle ma préparation, mais les choix que la direction fait, je les contrôlais pas. Puis je le savais depuis longtemps que je n'allais pas être protégé. Moi, à la fin de la saison, j'avais déjà demandé cette information-là à mon directeur général, parce que je l'avais déjà fait de la même manière qu'à Dallas avant. Puis à Dallas, j'avais une réponse affirmative dans laquelle j'allais être protégé. Et par la suite, ben cette fois-ci, je le suis pas. Puis on dirait que je suis en paix avec ça. On dirait que, comme je te disais, je ne contrôle pas, donc ça sert à rien de s'en faire pour rien.
Mais sur le coup, lorsqu'on t'annonce qu'on ne te protège pas, est-ce que ça passe de travers ou tu fais « OK, non, il n'y a pas de problème, merci beaucoup, puis je m'en vais chez nous? »
Ben, c'est un peu ça, tu sais, tu sais dans quelle situation tu es. Je pense que ma première fois à Dallas, si j'avais pas été protégé, j'aurais eu plus ta première réponse, tu sais, j'aurais été un petit peu plus frustré, étant donné que je suis venu de connaître une maudite bonne saison. Puis là, tu sais si t'es parti des plans à long terme de l'équipe. Puis moi, il me restait encore une saison de contrat, un petit peu comme en ce moment. Puis l'année passée, pour ma part, j'ai pas connu une saison extraordinaire. Puis je comprends très bien la décision de l'équipe. Puis pour moi, l'année prochaine, c'est une saison pour rebondir, justement.
Antoine Roussel, des Canucks de Vancouver, je regarde ce qui se passe avec le Kraken de Seattle, repêchage d'expansion demain. Tu me parlais du repêchage d'expansion pour la venue des Golden Knights de Vegas. J'ai l'impression que l'effervescence, un spécial ici à Montréal, parce que Carey Price est impliqué là-dedans, mais sur la planète hockey, c'est peut-être pas aussi gigantesque que ça l'a été lorsque les Golden Knights sont arrivés. Est-ce que je me trompe quand je dis ça?
Ben, c'est sûr que les Golden Knights arrivaient dans une situation différente. C'était des nouveaux venus dans une ville où c'était seul, où il n'y avait aucun sport professionnel. Donc, ils avaient tout approuvé, mais aussi c'était plus facile à ramasser un petit peu une base de fans. Seattle arrive dans une situation tout à fait différente dans laquelle où il y a le soccer, il y a le basketball, il y a le baseball, il y a le football. Donc, c'est une équipe qui doit frapper des gros coups pour se faire remarquer. Donc, ils vont essayer de tout faire demain soir pour faire ça. Puis ça va être intéressant d'écouter le repêchage, même si je suis dans le milieu, je suis tout aussi intrigué que tout le monde pour les prochaines décisions qui s'en viennent de cette équipe-là.
Donc, Antoine, si tu dis on doit frapper un gros coup pour attirer l'attention, est-ce que ce gros coup-là pourrait être Carey Price, selon toi?
Oui, mais ça en pourrait être d'autres. C'est des bons joueurs qui sont disponibles en ce moment. Puis c'est à savoir sélectionner les bons, ceux qui sont en santé, puis ceux qui jouent de la façon dont la ligue s'en va. J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont été laissés sur cette liste-là pour des raisons financières. Puis ben pour dans mon cas aussi, c'est sûr que l'équipe me ramassait, ben les Canucks seraient bien contents parce qu'ils pourraient déployer 3 millions sur un nouveau contrat sur d'autres joueurs. Puis ça, c'est la même affaire pour toutes les équipes. Quand je vois Johansson qui fait 8 millions et plus par année être sur cette liste-là, s'il se fait ramasser, bon, ben, à Nashville, ils ont 8 millions de plus à dépenser sur quelqu'un d'autre. Donc, ils ont cette opportunité-là de changer l'image un petit peu de leur équipe.
Mais c'est drôle parce que hier on avait Stéphane White à l'émission, on a parlé avec nos experts hockey et j'amenais l'autre côté de la médaille parce qu'ici, c'est la folie furieuse quand on a su que Carey Price n'était pas protégé par le Canadien. Et là, j'amenais juste l'autre côté de la médaille. Moi, je trouve très bon Carey Price. Je l'adore, le parfait numéro un. La seule chose, c'est que si jamais il quitte, ça donne une marge de manœuvre. Tu viens d'en parler. Là, ça donne des outils au directeur général. Tu peux pas remplacer Carey Price parce qu'il y en a juste un, mais ça donne des outils pour essayer d'aller chercher d'autres joueurs et changer peut-être un peu la physiologie de ton équipe lorsque tu as des moyens financiers comme ça.
Absolument. Puis aussi, il y a si on parle du Canadien, il y a la situation de chez Weber. Est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il revient pas? S'il revient pas, puis Carey Price revient pas, Marc Bergevin se retrouve avec 18 millions à dépenser. qui n'est pas négligeable dans un marché qui est plafonné et qui ne bouge pas depuis 3 ans parce que la pandémie est là. Donc c'est sûr que ça donne des cartouches dans le fusil de chasse. Puis c'est intéressant. C'est pour ça qu'un repêchage d'expansion, dorénavant, c'est le fun à écouter. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis c'est pour la planète hockey, j'ai l'impression que c'est une bonne affaire.
Moi, je veux savoir, Antoine Roussel, des Canucks de Vancouver. Tu as dit tantôt d'entrée de jeu, moi, je peux contrôler ce que je peux contrôler, c'est-à-dire ma condition physique, mon jeu sur la patinoire, les décisions administratives, je peux pas contrôler ça. Je veux savoir, à l'approche du repêchage d'expansion, il y a tellement de rumeurs et de potins, il y a tellement de choses qui se racontent à gauche et à droite, puis tout le monde a une source, puis tout le monde a entendu dire que, puis selon ce que j'entends, est-ce que vous, les joueurs de hockey, est-ce que ça vous touche? Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous êtes conscient de ça?
Ben, je pense que oui. Tu sais, t'as toujours de la famille, des amis qui regardent ce qui se passe autour de la ligue. Donc, moi, personnellement, je m'y attends pas vraiment parce que je trouve que c'est une perte de temps. Mais des fois, mettons que j'ai une personne qui filtre un petit peu tout ce qui se passe, puis si ça devient intéressant. Comme là, ton recherchiste m'a envoyé un message tantôt. Puis il me dit, est-ce qu'Antoine, à l'approche de ta carrière, comment tu te sens? Puis là, j'étais là, mais est-ce que j'ai manqué quelque chose? Est-ce que j'ai pas vu quelque chose sur la planète hockey? Fait que là, je pensais qu'il m'a fait peur. Je me suis dit, je me fais-tu racheter en ce moment? C'est tout ça qui est acquéré, puis je l'ai pas vu arriver. Puis là, je regarde ma femme, je dis, ben, je pense que si tu t'es racheté, on t'appelle, tu sais. Fait que c'est des situations de même que tu sais, tu poses des questions, mais au final, tu sais, je contrôle pas ce qui se passe. Puis je contrôle seulement ce que je fais sur la glace. Puis ben là, je contrôle ma préparation pour l'année prochaine.
C'est quand même assez fou. Hein? Dans une période agitée comme ça sur la planète hockey, chaque coup de téléphone ou message pas trop clair peut prendre une importance capitale parce que tout le monde est aux aguets quand même. Là.
Ben là, c'est sûr que tu es au courant de ce qui se passe, s'il y a des rumeurs. Mais j'ai l'impression que à cette heure-ci, aujourd'hui ou demain matin, les joueurs qui vont être sélectionnés, ils vont avoir reçu un appel ou ton équipe va te... C'est monnaie courante qu'on te le dit un petit peu d'avance. J'imagine que si t'arrives pas, tu sais pas, t'apprends pas ça à la télévision.
Clairement, je le souhaite pas parce que sinon, ça fait une drôle de réaction. Je veux savoir parce que je continue dans les potins puis les rumeurs. Puis là, je voyais que le Canadien fera une offre hostile à Elias Pettersson, qui est joueur autonome avec restriction. Ça, c'est de votre côté avec les Canucks de Vancouver. Lui, personnellement, c'est un gars qui, écoute, il ne doit pas trop s'occuper de ça ou tu penses qu'il est assez sensible à ce genre de choses-là?
C'est sûr qu'ils sont au courant de ce qui se passe. Puis lui est représenté par Pat Brisson, si je ne me trompe pas. Puis Quinn Hughes aussi. Donc, je suis un peu surpris qu'ils n'aient toujours pas signé avec l'équipe pour le moment. Puis, c'est une affaire. Que, si tu vois un gars comme Quinn Hughes qui est disponible... on va dire que c'est pour le 28 juillet, la date des joueurs autonomes. T'as de la place pour 7,8 millions qui se libèrent, si un gars qui revient pas, par exemple, d'un coup, tu peux faire un maudit bon coup puis faire mal à une autre équipe. Donc, c'est intéressant de regarder ça, là. Puis, quand on donne des choix au repêchage, des fois, c'est pas, si c'est un choix de première ronde, mais t'es entre 25 et 30, 32, pardon, c'est moins intéressant que si tu étais dans le top 10.
Donc, dans le cas de Pettersson, toi, tu t'attendais à le voir signer plus rapidement, qu'on évite de se rendre dans une situation comme ça?
Ben, on dirait que ça invite les autres organisations à cogner à la porte, un petit peu comme on a vu avec AO il y a 2 ans, mais tout est possible, puis j'ai l'impression que, je sais que les Canucks les adorent, ces joueurs-là, puis qu'ils les veulent les signer, puis peu importe quelle offre va arriver, elle va être matchée. Je pense pas que c'est un problème d'argent avec les Canucks complètement.
Hey, raconte-moi, Pettersson, là, il y a eu une blessure à long terme. C'était-tu au courant? Est-ce que là, c'est revenu, il va mieux, sa condition, est-ce que tu es au courant?
Ah ben, je suis un petit peu ça. C'est comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Je regarde ce qu'il fait. J'envoie un message ici et là, mais il a l'air d'être fin prêt pour la prochaine saison, puis c'est ça qui est important. Nous autres, on vise un petit peu comme moi une saison... pour rebondir, puis on a beaucoup à se faire pardonner avec notre équipe.
Ouais, écoute, je veux juste te parler d'un autre joueur, puis après je reviens avec la saison des Canucks. Ici, il y a deux affaires qu'on parle toujours, c'est Carey Price et Philippe Dano. Philippe Dano, qui est joueur autonome sans restriction, semblerait qu'il va aller tester le marché. Tu l'as affronté, Philippe Dano, cette année. Raconte-moi ton point de vue là-dessus. Raconte-moi, est-ce que tu t'attendais à ce que le Canadien signe Philippe Dano? Je veux avoir ton point de vue.
C'est officiel que je m'attends à ce que Philippe Dano reste avec le Canadien. C'est un joueur exceptionnel. Il produit pas à une récurrence incroyable, mais non plus, il joue pas, tu sais, des fois, on compare beaucoup à Patrice Bergeron, mais il joue pas avec Pasternak puis Brad Marchand. Ouais, exactement. Donc, tu sais, je pense que c'est un joueur qui est capable de jouer sur des trios comme ça, mais tu sais, des fois, t'as ton environnement que t'as, donc tu fonctionnes, donc j'ai l'impression que c'est un joueur qui a un talent aussi offensif, qui est peut-être pas assez exploité, mais moi j'ai l'impression que Philippe Dano, il peut pas s'en aller ailleurs que le Canadien, puis ça serait excessivement mal au Canadien s'il partait, je pense.
Raconte-moi, Antoine Roussel, dans les négociations, est-ce que vous êtes au courant des négociations où tu dis à ton agent, toi personnellement, tu dis à ton agent, OK, occupe-toi de ça, puis reviens-moi quand c'est fait, ou ben non, tu veux savoir le processus, si ça va bien, s'il y a de l'ouverture de l'autre côté, est-ce que tu t'informes?
Ben absolument, je pense que chaque joueur est le même. Si tu fais attention à ta carrière, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe. Puis moi, je suis comme ça, je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec ma carrière. Donc c'est sûr que quand on est proche de la date limite des échanges ou proche de la date limite des joueurs autonomes, puis que tu arrives joueur autonome, ben, c'est sûr que tu veux savoir quelle équipe a de l'intérêt. Qui t'appelle, puis comme ça tu peux comme te préparer, regarder, faire tes recherches avec qui tu pourrais jouer. Ça serait quoi le meilleur scénario pour toi et ta famille? Est-ce que, mettons, l'équipe, elle est loin de l'aéroport? Est-ce que les écoles, c'est proche? Tu sais, c'est tous des facteurs que quand tu es joueur autonome, faut que tu réfléchisses parce que c'est important de bien se sentir pour bien jouer. Puis quand ta famille se sent bien à un endroit, ben généralement ça rejaillit sur toi. Puis ça rejaillit sur toi, ça rejaillit sur ton jeu. Donc c'est aussi important que n'importe quoi, tu sais, de bien évaluer tout ça, avec qui tu vas jouer, c'est qui l'entraîneur, est-ce que tu vas avoir une bonne relation avec lui, est-ce qu'il t'a parlé, puis c'est quoi ton ressenti jusqu'à présent, parce que bientôt les équipes vont pouvoir faire ces appels-là. Puis se vendre aux joueurs autonomes. Puis c'est une période charnière pour ces joueurs-là parce que, comme je te l'expliquais, c'est des décisions qui sont importantes pour bien se sentir, pour ta famille et toi-même, puis pour le reste de ta carrière.
Antoine, je veux qu'on prenne quelques instants pour parler de votre saison des Canucks de Vancouver. Dans un premier temps, je vais y aller sur l'aspect qui n'est pas nécessairement sur le hockey. Avec le voyagement, avec la pandémie, vous avez eu la COVID là-bas du côté de Vancouver, comme Montréal, mais ça a frappé un peu plus fort. Les enfants, le voyagement, comment tu décrirais cette saison-là?
Ben, le voyagement, il était tel qu'il était. C'était pour tout le monde pareil, donc c'était pas forcément l'aspect le plus dérangeant. Pour moi, l'aspect le plus dérangeant, c'était vraiment le calendrier où on jouait un match aux deux jours, c'est ça qui était vraiment fatigant. Puis c'est difficile pour des joueurs de jouer quatre matchs par semaine pendant six semaines de suite. Puis à un moment donné, j'avais fait une réflexion à ce moment-là qu'on avait besoin de repos. Puis là, par malchance, on pogne tous la COVID. Donc tu sais, c'était pas idéal, mais on n'a jamais vraiment été capable de revenir de ça. Puis écoute, si on l'avait pas pogné à COVID, je pense que on aurait vraiment poussé un peu le Canadien dans les derniers retranchements pour la quatrième place. Écoute, pour le Québec, pour les gens qui t'écoutent en ce moment, ça a été le fun qu'on ait pas été en mesure de le faire parce que le Canadien s'est rendu en finale, puis c'était beau de voir toute la province encourager les Glorieux. Mais de notre côté, c'est sûr que ça n'a pas été évident. Je pense de démarrer la saison, de jouer aussi beaucoup de matchs en très peu de temps avec une équipe qui est quand même assez jeune. Et puis, c'est ça qui a fait la différence, vraiment.
Antoine, je me souviens d'un entretien que tu as donné, je pense que c'était à TVA Sport où tu parlais, quand on a fait un entretien avec toi, tu avais la COVID, donc vous aviez ça dans la famille, et tu disais, je sais pas comment je vais jouer, quand je monte les marches, je suis essoufflé. Raconte-nous le processus, raconte-nous ton retour également.
Le retour, ça n'a pas été forcément évident, pour être honnête. Je suis content que JT Miller, à un moment donné, il avait parlé devant les médias, puis il avait dit que c'était pas acceptable qu'en seulement 2 entraînements, on puisse revenir parce qu'on a eu la COVID. Donc, on a été arrêté pendant 2 semaines. Puis, on a eu quelques entraînements. Puis, c'était pas assez pour rebondir, pour être prêt, parce qu'il y a des équipes qui s'arrêtent pas. Donc, déjà, quand on prend une journée ou deux de congé dans la saison, quand on revient le surlendemain, on est vraiment affecté par ça. Puis, en tout cas, moi, je le ressens, puis je pense que tous mes coéquipiers aussi le ressentent. Une journée de congé, on a l'impression qu'on se sent moins bien sur la glace. Donc, imagine, pendant 2 semaines, donc ça a été c'était difficile. Mais c'était pas ça le pire. C'était vraiment de la maladie. Tu penses que tu perds du poids. Moi, j'ai perdu à peu près 8-9 livres. Puis je suis revenu au jeu, puis je les avais pas repris, ces livres-là, puis j'ai l'impression que j'ai eu un contact, puis c'est comme ça que je me suis blessé. S'il n'y avait pas de COVID, j'aurais fini la saison, c'est sûr. Donc, c'est tout ce retour à la compétition a été précipité, puis c'est ça qui est dommage un peu, parce qu'on a été bons les 2 premiers matchs, mais tout de suite après, on a manqué des chances pour finir la saison.
Évidemment, tu disais, si vous aviez été tout le monde en santé, vous auriez pu donner une meilleure lutte aux Canadiens qui connaissaient des moments difficiles. As-tu été surpris parce que tu as affronté les Canadiens en saison régulière et de les voir agir en série de fin de saison? Est-ce que tu as été surpris d'avoir un écart de compétition comme ça par la même formation?
Ben oui et non, parce que je le savais que c'était une équipe. Moi, je l'ai dit depuis le début de la saison, que c'était une équipe qui était bâtie pour les séries éliminatoires. Puis ça prend des équipes. Des joueurs qui te permettent d'arriver en séries éliminatoires, puis des joueurs qui te font traverser des séries éliminatoires. Puis, tu sais, le Canadien, je pense qu'ils ont assez de joueurs pour te rendre jusque-là, mais c'est limite. Mais pour jouer en série, ils ont toute une armée. Là. C'est impressionnant. Puis, je les regardais toutes les games, je les ai écoutés, puis ça avait l'air difficile de se rendre au filet. La brigade défensive du Canadien est exceptionnelle. Là. Ils rendaient la tâche vraiment difficile aux autres équipes. Puis ils ont muselé Toronto, Winnipeg, ça a été un balayage. Puis Vegas, ils leur ont donné tout que du fil à retordre aussi, puis ils ont gagné. Fait que ça a été le fun de les écouter. Puis ils ont toute une équipe, donc t'es toujours construit d'une certaine manière. Puis c'est ça qui fait que cette équipe-là a pu avoir du succès par la suite. Puis dans notre cas, on a manqué un peu de gaz, puis on a manqué un départ canon, puis c'est ça que le Canadien il y a eu, en début de saison, ils ont eu un départ de 10 games, je pense qu'ils ont été 8-1-1, quelque chose comme ça, puis après ça, c'est là que les choses se sont corsées, mais ils ont été capables de se rentrer en série, puis c'est ça que chaque équipe vise au début de chaque saison, c'est juste se rentrer en série. C'est sûr que si t'es Tampa Bay, tu vises à gagner encore, là, mais si t'es les autres équipes, tu veux juste te rentrer, là.
Antoine Roussel, dis-moi, c'est quoi la différence entre la saison régulière et les séries de fin de saison? T'as dit, ils ont toute une armée pour les séries de fin de saison. Saison régulière, c'est un peu plus difficile. Explique-moi la différence.
La différence, c'est que les joueurs de finesse, ils ont beaucoup plus d'espace en saison régulière. Tu sais, quand tu joues en saison normale, tu joues un match contre une équipe, puis tu te déplaces, puis cette année c'était pas comme ça malheureusement, mais quand tu joues 4 games contre une équipe, une équipe qui a beaucoup de caractère avec des joueurs qui sont physiques, intenses, puis qu'ils veulent vraiment gagner, parce que tous les Canadiens ils sont construits comme ça, ben là c'est là que tu vois la différence. Ces joueurs-là, ils ont moins d'espace, et puis là ils deviennent de plus en plus silencieux. C'est ça qu'ils ont été capables de faire, le Canadien. Ils ont été capables de mettre sous silence Austin Matthews. Je ne vais pas vous dire Scheifele, mais Blake Wheeler et compagnie, Ehlers, ils voulaient plus, après qu'ils aient perdu Scheifele pour le coup de sur Evans, ben là, c'est sûr que lui, il ne voulait plus aussi autant aller à la guerre, puis ça paraissait, puis l'équipe du Canadien a été capable de museler. Donc, c'est parfait, c'est comme ça qu'ils ont été construits, puis ce caractère de cette équipe-là, on l'a vu à chaque reprise cette saison, ils ont eu des hauts, des bas, mais ils ont toujours fini vers le haut, donc c'est ça que tu veux, c'est comme ça que tu veux être construit.
Antoine, t'en as pensé quoi, toi, du coup de Scheifele?
ça a été cochon, c'est sûr que t'es en séries éliminatoires, tu veux tout faire pour gagner, ça se passe vite. Puis c'est un coup à la tête, et puis il chargeait directement la tête. S'il l'avait pogné sur l'épaule, je pense que c'était quand même une mise en échec solide, dangereuse. Mais écoute, je trouve aussi Jake Evans, c'était pas mis dans une excellente position. C'est en série, il faut quand même que tu fasses attention. Mais tu sais, j'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il a été capable de marquer, fermer les livres de la game. Puis quand on dit, tu sais, des fois, t'en prends une pour l'équipe, là. Ben, il y en a pris toute une pour l'équipe.
Oui, définitivement. Écoute, Antoine, je te remercie énormément pour le temps que tu nous as accordé. Je parle avec l'équipe ici pour qu'on arrête de t'envoyer des textos qui te stressent parce que tu pensais que tu étais racheté. Fait que clairement, on va essayer d'éviter ce genre de textos-là. Puis écoute, je te souhaite la meilleure
saison. S'il vous
plaît. Oui, on va faire ça, c'est sûr. Et je te souhaite la meilleure saison possible la saison prochaine. Merci beaucoup, Antoine.
Merci beaucoup. À bientôt.